Pour notre chronique du CJPO cette semaine, Catriane Hamel, qui est étudiante en droit au CJPO. Bonjour, Catriane.
Bonjour, ça va bien?
Oui, très bien, merci. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet quand même dans une série sur les testaments et les successions. Et on va se poser la question suivante. Qu'est-ce qu'un testament?
Donc, un testament, en fait, c'est un document qui peut avoir une certaine force juridique qui contient les dernières volontés d'une personne. Donc, on pourrait parler, par exemple, de qui héritera des biens, qui va s'occuper des enfants de moins de 18 ans, qui va être liquidateur. Donc, le testament est unilatéral, donc on ne négocie pas pour le créer. C'est fait par une seule et unique personne. Pour être un testament, le document doit respecter les formes prévues au Code civil du Québec. Donc, il y a trois formes qui existent de testament, soit le testament notarié, le testament holographe et le testament devant témoin. Donc, c'est important de noter là, que le testament verbal est nul et donc réputé n'avoir jamais existé. Chaque forme de testament va avoir ses propres caractéristiques qui doivent être respectées. On va en discuter dans quelques instants. Là. Mais cela étant dit, c'est vraiment important d'avoir un testament écrit respectant l'une de ces trois formes-là. Puis si les exigences prévues au Code civil du Québec ne sont pas respectées, le testament va être nul. Donc, je parle qu'il y a comme trois formes. Toutefois, il y a une exigence qui va être commune aux trois formes, puis ça va être la capacité d'une personne. On parle vraiment de capacité juridique. Donc, habituellement, une personne a la capacité juridique à 18 ans. Donc, la personne apte, c'est une personne qui est capable d'exercer son jugement, de prendre des décisions et d'exercer sa volonté. On peut être apte avant 18 ans, mais pour avoir la pleine capacité juridique, là, on doit être majeur. Bon, il y a certaines situations là, qui font en sorte qu'on peut avoir la pleine capacité juridique avant 18 ans. C'est le cas, par exemple, d'un mineur pleinement émancipé. Pour en revenir à notre personne apte ou inapte, là, une personne inapte ne pourra pas donner son consentement libre et éclairé. Puis, ce consentement-là, finalement, il est nécessaire pour tester qui est écrire un testament. Donc, une personne doit être apte lorsqu'elle teste. Puis, ça signifie en fait qu'elle doit avoir conscience des biens qu'elle va mettre dans son testament, puis de ce qu'elle a aussi comme bien. Donc, une personne de moins de 18 ans va pas pouvoir tester. Toutefois, elle pourrait faire un testament là, pour les biens qui ont très peu de valeur.
Avant de passer aux formes de testament, qu'est-ce qui arrive si quelqu'un n'a pas de testament?
Donc, en fait, le Code civil du Québec qui régit le droit au Québec va prévoir des héritiers en fonction de la situation personnelle du défunt si quelqu'un n'a pas de testament. Donc, ça veut dire que si quelqu'un décède sans testament, ça va être le Code civil qui va prévoir. Et donc, les gens qui pensaient être héritiers parce que, par exemple, quelqu'un lui avait dit verbalement « Ah, tu es héritier », la personne n'avait pas de testament, par exemple, bien, cette personne-là qui pensait être héritière, ben, elle peut se retrouver avec rien. Donc, le Code civil énonce comment séparer les biens avec divers héritiers avec qui le défunt peut être marié ou entretenir des liens de sang, par exemple. Cela étant dit, si on n'a pas de testament, ben, ça va être le Code civil qui va s'appliquer, puis ce ne sera pas nécessairement nos dernières volontés. Donc, par exemple, on pourrait prendre deux personnes qui sont en couple, on va les appeler Maurice et Dana, puis eux, ils ne sont pas mariés, ils n'ont pas d'enfants et n'ont pas de testament non plus. Donc, même si ces personnes-là sont ensemble depuis les 30 dernières années, si l'un d'eux décède, le conjoint survivant n'aura rien finalement en vertu de la loi. Donc, imaginez un scénario où Maurice et Dana sont copropriétaires d'une maison, puis Maurice décède sans testament. Maurice avait une sœur et un père. La part de la maison de Maurice va devenir la propriété de sa sœur et de son père en raison d'une moitié chaque dû à ce que prévoit le Code civil. Donc, Dana qui deviendrait copropriétaire de la maison avec le père et la sœur de Maurice. Donc, mettons des proportions, là, Dana était copropriétaire de la maison à 50%. Maurice décède, laisse sa part à son père et à sa sœur. Eh bien, sa sœur va avoir un quart de la maison et son père va également avoir un quart. Donc, notez que si des conjoints sont mariés ou unis civilement, les règles vont être un peu différentes. Donc, les conjoints mariés ou unis civilement ont des droits sur l'héritage, contrairement aux conjoints non mariés ou non unis civilement. Il faut faire attention, là, par contre, aux changements législatifs qui vont s'appliquer vers la fin du mois de juin 2025 sur le régime d'union parentale. Donc, les personnes qui sont assujetties à ce régime-là vont avoir des droits quant à la succession d'une personne, mais c'est avec d'autres particularités, là, donc c'est toujours intéressant d'aller, par exemple, sur Éducaloi ou encore d'écouter la chronique ultérieure qu'on a fait à ce sujet-là. Donc, finalement, là, faire un testament, ça permet de prévoir autre chose que ce que prévoit la loi. Maurice pourrait donc décider, lui, de léguer sa partie de sa propriété avec Dana à Dana dans son testament. Puis, si jamais là, vous voulez avoir plus d'informations sur la dévolution là, qu'on appelle, en fait, à qui va les biens si on n'a pas de testament, vous pouvez toujours aller sur Éducaloi qui possède une ressource qui explique très bien là, comment plusieurs situations peuvent s'appliquer.
Qu'est-ce qu'un testament holographe, Catherine?
Donc, les conditions de forme du testament holographe sont prévues à l'article 726 du Code civil du Québec, mais en bref, le testament holographe, c'est un testament qui va être entièrement écrit par le testateur, donc la personne à qui appartient le testament, va rédiger le testament et ensuite le signer. Donc, ce testament-là, holographe, il doit absolument être écrit à la main, sinon le testament sera nul. Aucun témoin n'est requis pour ce testament-là, finalement. Puis, si jamais vous avez un testament holographe, c'est intéressant d'y apposer une date. Donc, la date permet de connaître quel testament est le plus récent si plusieurs testaments holographes existent, par exemple.
Et maintenant, qu'est-ce qu'un testament devant témoin?
Donc, le testament devant témoin est écrit par le testateur lui-même ou par un tiers. Donc, c'est un peu différent du testament holographe sur ce côté-là. Le testament devant témoin va devoir avoir une présence de deux témoins majeurs. Puis, devant ces deux témoins-là, le testateur va déclarer que l'écrit qu'il présente est le testament, puis il va le signer. Les deux témoins vont également signer ce testament-là, finalement. Le testateur, par contre, n'a pas à dévoiler le contenu du testament aux témoins, mais il doit reconnaître que le document qu'il présente et qu'ils vont signer, c'est le testament. Donc, contrairement au testament holographe, c'est possible que le testament devant témoin soit écrit par un tiers, comme je mentionnais. Le tiers ne peut pas être l'un des témoins, finalement. Puis, il peut être également rédigé par moyens techniques. Donc, par exemple, on pourrait rédiger le testament devant témoin à l'ordinateur. Par contre, si ce testament-là n'est pas rédigé à la main, il va falloir que le ou rédigé par le testateur lui-même, il va falloir que le testateur et les témoins apposent leurs initiales ou la signature sur toutes les pages du document.
Qu'est-ce qu'un testament notarié?
Le testament notarié est celui fait auprès d'un notaire. Donc, ce testament sera reçu en minutes. Ça signifie que le testament va être déposé au greffe du notaire, puis il va être enregistré au registre testamentaire de la Chambre des notaires. Le testament notarié sera signé par le testateur, le notaire et un témoin. Donc, le testament va devoir être lu par le notaire au testateur et le testateur va devoir déclarer devant témoin que ce testament-là contient ses dernières volontés. Encore une fois, le testament n'a pas à être lu devant témoin. C'est au choix du testateur, mais c'est important que le testateur dise devant témoin, en fait, que le testament contient ses dernières volontés. L'avantage là, de faire un testament notarié, c'est que c'est possible de recevoir des avis juridiques du notaire, ce qui permet d'éviter des mauvaises surprises aux héritiers, puis de s'assurer que le testament est en règle. Donc, le testament notarié est aussi très difficile à contester, comme le notaire va devoir s'assurer de l'identité, de la capacité et du consentement libre et éclairé du testateur. Le testament notarié va être un acte authentique. Donc, ça signifie qu'on n'a pas à le faire vérifier par un notaire, comme le testament holographe ou devant témoin. C'est ce qu'on verra plus tard là, dans une prochaine chronique là, du Centre de justice.
Qu'est-ce qu'un liquidateur?
Donc, le liquidateur testamentaire était aussi connu auparavant comme exécuteur testamentaire. Donc, c'est la personne qui est chargée de régler la succession. Donc, c'est pas obligatoire là, de définir un liquidateur dans son testament, mais ne pas le faire sans sorte que l'ensemble des héritiers va l'être finalement. Donc, une personne désignée comme liquidateur n'est pas non plus tenue d'accepter la charge, à moins qu'elle soit la seule personne qui est héritière. Donc, c'est possible de nommer une autre personne là, qui va être liquidateur si la première personne ne veut pas ou ne peut pas non plus exercer ses fonctions. Si toutefois aucun liquidateur est nommé, eh bien, on va avoir l'ensemble des héritiers comme liquidateurs. À ce moment-là, là, les héritiers peuvent s'entendre à la majorité pour nommer qu'un seul liquidateur. Le rôle du liquidateur, c'est de s'occuper de la succession. Donc, ça comprend de publier des informations au registre des droits personnels et réels mobiliers, de faire l'inventaire du bien, d'administrer les biens, de recouvrir les sommes qui étaient dues aux défunts, payer les dettes et beaucoup d'autres tâches connexes. Donc, le liquidateur va également exercer la saisine au décès du défunt. Exercer la saisine, ça veut dire que le liquidateur va prendre possession des biens. Le liquidateur sera aussi celui qui va déterminer les personnes qui peuvent hériter et remettre les biens à ce dernier. Donc, en résumé, là, le liquidateur va gérer les finances de la succession, remettre ce qui est prévu dans le testament aux héritiers et aussi mettre fin à la succession, ce qu'on pourrait aussi appeler le fermer la succession. Donc, il y a des frais parfois qui sont entraînés par la liquidation. Ces frais-là vont être assumés par la succession finalement. Un liquidateur là, qui n'est pas héritier a le droit à une rémunération. Donc, le liquidateur qui est héritier, lui, n'y a pas le droit, sauf si ça a été prévu dans le testament ou encore si les autres héritiers y consentent. Mais le liquidateur et la succession, là, on va encore également l'aborder un peu plus spécifiquement à la prochaine chronique.
Et en terminant, Catherine, qui peut recevoir une succession?
Donc, à la base, tout le monde peut recevoir une succession, mais bien entendu, il y a des exceptions. Donc, on pourrait parler du notaire qui reçoit le testament, le conjoint, le parent ou l'enfant de ce notaire. Donc, ces personnes-là ne peuvent pas être héritiers. Il y a aussi les propriétaires, l'administrateur, l'infirmier, le médecin ou l'employé salarié qui a pris soin d'une personne à l'hôpital ou au centre d'accueil où est-ce que la personne est hébergée. Donc, ces personnes-là ne peuvent pas non plus être héritiers si le testament a été rédigé à cet endroit-là. Il y a une autre exception à cette exception-là, c'est si une de ces personnes est un conjoint ou un proche parent du testateur, finalement. C'est aussi le cas des personnes qui sont un membre d'une famille d'accueil. Donc, si le testament a été rédigé à l'époque où le défunt demeurait chez la famille d'accueil, les personnes ne peuvent pas être héritières non plus. Il est à noter que les témoins ne peuvent pas non plus hériter de la succession. Donc, on parlait d'un testament devant témoin ou signé devant un témoin, là, les témoins ne peuvent pas être héritiers. Finalement, là, il y a une autre exception aux gens qui peuvent hériter. Ce sont pour des motifs sérieux. Donc seulement, c'est possible qu'une personne qui était désignée comme héritière voit son héritage être annulé. C'est ce qu'on appelle une personne indigne. Donc, c'est le cas, par exemple, d'une personne qui a fait atteinte à la vie du défunt ou encore qui a influencé de mauvaise foi de quelconque façon le testament, que ce soit par sa destruction, sa rédaction ou encore une modification du testament.
On est dans des dans des idées très complexes, ce qui fait qu'on va avoir besoin d'un deuxième rendez-vous. Catriane Hamel, étudiante en droit au CJPO, un grand merci.
Mais ça me fait plaisir.